Jacques Porchat, la couleuvre. Laric, le bûcheron, revenait du bois, un fagot sur l'épaule, et faisait tristement en lui-même le compte de ce qu'il devait à l'usurier Chandragore, qui lui avait prêté, 6 mois auparavant, de l'argent dont il n'avait plus un sou. Car une petite somme, et même une grosse, est bientôt dépensée en temps de cherté, lorsqu'on a une femme et 6 enfants à nourrir, et que le travail manque souvent. Laric était fort inquiet, parce que Chandragore, qui, à la vérité, n'exigeait, après un prélèvement sur le capital, qu'un modique intérêt de 20%, était l'homme du monde le plus exact. Et si le bûcheron ne se rendait pas le soir même à la ville pour acquitter sa dette, il pouvait compter de voir, le lendemain, le terrible sire à sa porte avec les huissiers. À cette pensée, Laric soupirait, si triste qu'il en oubliait le poids de son fagot. Il faisait un froid rigoureux, auquel le pauvre homme ne songeait guère. Soudain, il voit une couleuvre, couchée en travers du chemin et tout engourdie. Touché de compassion, il pose à terre son fardeau, ramasse le reptile, le recueille dans son sein et, reprenant sa charge, il poursuit sa route. La chaleur de son corps eut bientôt ranimé la couleuvre. Il la sentait rouler doucement ses anneaux, charmé de voir qu'un peu de sa chaleur pût lui rendre la vie. Enfin, il approcha de sa cabane, dont il apercevait la lumière à travers les rameaux. Lumière chérie, auprès de laquelle il reviendrait chaque soir avec bonheur, si seulement il apportait du pain aux pauvres petits qui l'attendent, si seulement la porte de l'humble chaumière pouvait être fermée à l'impitoyable usurier. La couleuvre qui se pressait sur le cœur de Laric en pouvait suivre tous les secrets mouvements. Elle avança un peu la tête et lui dit en son langage, qui ressemblait au sifflement de la bise dans les sapins, « Va, sans triste pensée, souper avec ta famille. Ensuite, nous irons ensemble chez le seigneur Chandragore. Je me charge de le satisfaire, pourvu que tu ne dises jamais à personne, même à ta fidèle Gélinotte, ce que j'aurais fait pour toi. » Laric remercia la couleuvre de bon cœur et marcha d'un pas léger jusqu'à la porte de sa cabane. « Te voici bien à propos, mon pauvre mari, lui dit la bonne Gélinotte. Surveille un moment nos enfants et la soupe, que le mal ne leur arrive, pendant que je vais fermer l'étable et la basse-cour. » Il y avait là 6 enfants qui trépignaient de joie. Le plus grand avait 6 ans et portait le plus petit, qui avait 6 mois. Le père les embrassa tous, par ordre de naissance. Ensuite, il prit le tout petit dans ses bras et les autres sur ses genoux. Il se livrait à la joie sans fâcheuse arrière-pensée, parce qu'il avait foi aux paroles de la couleuvre. « À table, dit-il gaiement dès qu'il vit rentrer sa femme, ta soupe aux choux sera excellente à en juger par l'odeur. » Si seulement elle était payée, répondit-elle en soupirant. Bah, mangeons-la d'abord et nargue la tristesse. Comme te voilà joyeux, mon mari, dit la bûcheronne en servant la soupe. On dirait, si c'était la saison, que tu as trouvé la pie au nid. À l'instant même, comme elle achevait de vider la marmite, elle en vit tomber 2 perdrix, cuites à point, qui se couchèrent moelleusement sur la soupe fumante. « Par la fée des bois, qu'est-ce donc que cela ? » s'écria la bûcheronne. « Voilà une belle surprise ! Comment as-tu fait, mon Laric, pour cuire cela en si peu de temps ? Où les as-tu trouvées, ces belles perdrix ? » ?»« Commençons, dit-il, par les manger. » Et ne cherchons pas trop d'où nous vient ce gibier. « Je pense, ajouta-t-il avec finesse, que le chasseur n'est pas loin d'ici. » Gélinotte, supposant que son mari voulait la désigner elle-même, assura qu'elle n'avait rien mis dans la marmite que du lard et des choux. Encore avait-elle acheté le lard à la voisine, car il n'y avait plus rien dans le saloir. « Et combien devons-nous à la voisine ?» reprit la rique d'un ton léger. « 13 sous, répondit la femme, comme elle se disposait à découper une des perdrix qu'elle avait posées sur son assiette. Aussitôt, l'on vit tomber du bec de la perdrix 13 petits sous, aussi brillants, aussi neufs que s'ils fussent sortis le jour même de l'hôtel des Monnaies. « Par la fée des bois !» s'écria Gélinotte ébahie. « Voilà justement mon affaire !» Mais je vois ici de la diablerie. Prends-les à bon compte, comme les perdrix, ma pauvre bonne. Le bienfaiteur se cache et ne dit mot, mais ses œuvres parlent pour lui. Va, je t'apporterai ce soir bien d'autres nouvelles. Que veux-tu dire, mon homme? Vas-tu nous quitter encore? Hé, femme, ne sais-tu pas que c'est aujourd'hui l'échéance, et que si je ne vais pas ce soir « chez maître Chandragore, demain il viendra chez nous. »« Tu vas le payer ?»«
Comment ? Comment ?»«
Si je parlais, cela gâterait tout. Ce n'est pas de l'argent volé. » En parlant ainsi, la rique prenait son chapeau et son bâton. Puis il ajouta. « Femme, fais coucher ses enfants et va toi-même dormir. » « Je ferai coucher les enfants, » répondit-elle. « Mais je suis trop inquiète pour dormir. Je t'attendrai au coin du feu et ne fermerai pas l'œil quand tu ne reviendrais qu'avec le jour. » Il t'arrive assurément quelque chose d'extraordinaire et tu ne veux pas me le dire. » Ainsi soit-il. Une femme sage respecte les secrets de son mari et ne le presse pas de questions pour le faire jaser mal à propos. Va donc à la garde du ciel et reviens de même. » En achevant de parler, elle embrassa de bon cœur son mari, le suivit jusqu'à la porte et lui souhaita encore une fois un heureux voyage. La couleuvre, qui n'avait pas bougé pendant le souper, donna des instructions à la rique tandis qu'il cheminait. « Quand tu seras arrivé chez ton usurier, » lui dit-elle, « tu lui parleras en ces termes. « Seigneur Chandragore, déclarez en conscience ce que je vous dois, et vous allez être payé. » La rique ne manqua pas de répéter ces paroles à Chandragore. « Ce que tu me dois, » lui dit le pince-maille, « ne le sais-tu pas aussi bien que moi ? Voici ton billet. Il me faut toute la somme, entends-tu? Mais, Seigneur, je n'en ai reçu que le tiers. Tu étais le maître de ne pas emprunter. Qui accepte les conditions s'oblige à les remplir. Allons, maître Larique, assez de paroles, que je voie ton argent. » Larique, ému de colère, avait porté la main sous sa veste, car il sentait son cœur battre si fort qu'il lui semblait près d'éclater. La couleuvre saisit ce moment pour lui glisser un ducat dans la main. Il le posa bien vite sur le bureau de Chandragore, que l'aspect de l'or réjouit visiblement. L'usurier mit ses lunettes, prit son trébuchet, et tandis qu'il pesait soigneusement le ducat, la rique, étant retournée à l'emplette, recevait de son ami une seconde pièce d'or qui fut pesée comme la première. Il en fut de même jusqu'à 10. Après quoi, la rique dit avec émotion. « En conscience, seigneur créancier, vous savez que c'est là tout ce que j'ai reçu de vous, quoique le billet porte 30 ducats. » « Tu en payeras 30 ou tu iras en prison, » répondit l'usurier. « Je suis sûr que tu as le reste dans ta poche. » En disant ces mots, le misérable se permit de porter la main dans la poche de Laric, avec l'intention de le fouiller. Mais il trouva ce qu'il ne cherchait pas et poussa un grand cri. La couleuvre l'avait mordu jusqu'au sang. Pendant qu'il saute et se démène en secouant le doigt blessé, le billet, qui était resté sur le bureau, s'agite de son côté, frémit, s'envole, tourbillonne au-dessus de la lampe où il s'enflamme et se consume avant que Chandragore ait pu l'attraper. « Ô voleur !» s'écrie-t-il en portant les mains sur le bûcheron. On vient à ses cris et l'on trouve Laric aux prises avec un affreux singe dont on le délivre d'abord. On lui demande ensuite ce que cela signifie. Il conta ce qui s'était passé entre lui et l'usurier, mais sans dire un mot de la couleuvre. On en conclut que par une juste vengeance du ciel, le plus méchant des hommes était devenu la plus méchante des bêtes. Laric s'en retournait bien joyeux, et chemin faisant, il voulut remercier sa bienfaitrice. Elle avait disparu, persuadée néanmoins qu'elle pouvait l'entendre. « Oh, ma fidèle amie, lui dit-il, mes vœux sont comblés. Faites seulement qu'à l'avenir, le travail ne manque pas au père, ni la santé à la famille. » En arrivant chez lui, il trouva sa femme bien joyeuse. Elle l'embrassa et lui dit « J'étais là au coin du feu, je pensais à toi. » Tout à coup, j'ai entendu comme une voix sifflante qui m'a dit « Tu es la plus discrète des femmes. » Et j'ai senti autour de mon cou quelque chose de froid. Le ciel me pardonne, j'ai cru que c'était un serpent. J'ai porté la main sur la place et j'ai trouvé ce collier d'or. Laric nous voilà riches, car ce joyau qui me paraît être d'un travail admirable vaut sans doute beaucoup d'argent. Mais nous ne le vendrons pas, répondit le bûcheron. « Je devine d'où te vient ce collier. »« Pauvre femme, encore un secret qu'il faut que je garde pour moi. »« Ainsi soit-il, dit la bûcheronne. »« Je mettrai cette parure les jours de fête. »« Et quand les voisines me diront, « Qui vous a donné ce beau collier d'or ?»« Je répondrai, « Je l'ignore, mais mon mari le sait, et cela me suffit. » Laric fut vivement touché d'une soumission si naïve, et pourtant, il ne dit pas un mot de la couleuvre. Si vous êtes un jour aussi heureux que ses époux, ne soyez pas moins discret que le mari, ne soyez pas plus curieux que la femme.